Et je rends grâce à Dieu pour tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons jour après jour. Est-ce que le son sort? Oui? Ok, parfait. Nous allons, je vais vous prier de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. On a déjà prié pour ça. Et nous avons un texte court, relativement court. D'ailleurs, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, nous avons 1 Corinthiens, le chapitre 13. 1 Corinthiens 13, on va lire à partir du verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Amen. Quelle belle perfection qu'il y a dans l'amour. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme je l'avais annoncé, nous allons commencer une série de messages sur les qualités de l'amour. Nous avons parlé dimanche dernier de l'importance de l'amour, mais nous allons parler des qualités de l'amour. Et on en voit, il y en a pas mal dans ce que nous venons de lire ici. J'en ai compté 15. 15 qualités de l'amour dans ces quelques versets. Et comme vous pouvez le constater, bien aimé, la description que Paul fait de l'amour ici n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est du concret. Là. Quand on dit que l'amour ne se vante point, c'est concret. On peut le voir, on peut le tester. Quand on dit que l'amour est patient, on peut le voir, on peut le tester. Amen. Donc c'est quelque chose qui n'est pas abstrait. Ces qualités de l'amour sont des choses qui sont vraiment concrètes. L'amour, véritablement amour, produit ces qualités dans la vie de ceux qui aiment. Et il nous dit là-dedans, ce que l'amour fait, nous venons de voir deux qualités, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, il nous dit ce que l'amour ne fait pas. Il n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il nous montre également ce que l'amour fait de supérieur, de l'extrême dans la vie de ceux qui aiment le Seigneur. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Beaucoup de qualités que je souhaite que nous puissions avoir dans notre vie, dans nos relations les uns envers les autres. Nous parlons plus de l'amour envers le prochain. Pendant plusieurs, tout au long de l'année en fait, on va parler sur ces sujets là-bas. Mais je voudrais d'abord clarifier, quand on parle de l'amour ici, parce qu'il existe beaucoup de sortes d'amour. Je pense qu'il y a quelques mois, Marcelle, si je ne me trompe, avait déjà donné toutes ces différences, juste pour dire qu'il y a ce que le commun des mortels appelle amour, qui est lié à l'acte sexuel, justement au plaisir sexuel. Ça, c'est un côté de l'amour, ce n'est pas ce dont Paul nous parle dans ce passage. Ce n'est pas cela. Paul ne parle pas non plus de ce qui est l'amitié qui est une relation entre deux personnes qui ont peut-être quelque chose en commun, un intérêt commun. On est amis avec quelqu'un, on l'aime parce que nous avons un intérêt en commun. Nous avons des choses communes que nous partageons, nous avons un sentiment d'amitié qu'on éprouve vis-à-vis de quelqu'un parce qu'on est attiré vers l'autre personne par ce que cette personne dégage. Il y a cette amitié. Mais l'amitié ici, envers quelqu'un, peut prendre fin. Peut prendre fin un jour parce qu'il est basé sur l'estime mutuelle. Mais cette estime peut s'arrêter. Vous connaissez des amis qui ont eu à se séparer. Ils ont été amis pendant longtemps, tout d'un coup un jour, à cause d'un problème, ils se séparent et il n'y a plus rien qui se passe. Donc il est important de souligner que ce sentiment peut être passager dans la vie des personnes, dès qu'il n'y a plus de réciprocité. Pour que ce soit mutuel, il faut qu'il soit réciproque. Nous avons également cet amour qui existe, vous connaissez ça, parce que nous tous, nous venons d'une famille, et donc il y a cet amour qui existe entre les membres d'une même famille. Nous nous aimons, nous avons le même père, la même mère, je parle biologiquement ici, et nous avons le même sang qui coule dans les veines, nous avons un lien de sang entre nous, et c'est un amour qui existe aussi. Mais ce n'est pas encore de ça que l'apôtre Paul peut parler ici. L'amour dont Paul parle ici, c'est l'amour agapé, qui est un amour vraiment supérieur. C'est l'amour supérieur qui est désintéressé, lui. C'est l'amour dont Dieu nous a aimés. C'est-à-dire qu'il n'attend rien en retour. Je l'aime. Dieu nous a aimés quand nous étions encore pécheurs. Il n'attendait rien en retour dans l'immédiat. Qu'est-ce que nous allions lui donner? Nous étions pécheurs, nous étions des personnes qui étaient éloignées de lui. Mais Dieu nous a aimés. C'est cet amour dont Dieu nous a aimés. C'est cet amour qui a poussé Jésus-Christ à aller jusqu'au sacrifice suprême, à aller jusqu'à la croix. Donc, les trois premiers types d'amour ici font du bien à l'homme. Mais ils ne sont pas suffisants dans la vie. Ils ne sont pas suffisants. On a besoin de plus que ça. On a besoin que cet amour soit perfectionné. Même l'amour entre frères et sœurs. Vous savez que ce n'est pas parce que j'ai un frère du même père, du même mère, que nous allons nécessairement nous entendre. On a besoin de quelque chose de plus à cet amour qui est le lien de sang. Nous avons besoin de cet amour de Dieu qui soit déposé en nous comme un don de Dieu pour que nous puissions vivre bien ces autres types d'amour. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela, c'est que nous pouvons croire que nous aimons quelqu'un, mais si ce n'est pas, nous n'avons pas reçu ce don de Dieu, l'amour agapé que Dieu veut que nous puissions avoir entre nous, il y a un problème. Pour que les relations familiales, pour que les relations dans un couple, pour que les relations dans une famille ne souffrent pas de jalousie, il faut qu'il y ait cet amour agapé dans nos vies. Amen. Et cet amour ne peut être que le don de Dieu, ça nous vient de Dieu, il n'y a personne d'autre qui peut nous l'accorder, c'est le fruit de l'Esprit parce qu'il nous permet, même des gens qui nous détestent, même des gens qui ne nous aiment pas, des gens qui nous ont fait du mal, nous pouvons les aimer par cet amour agapé. Et l'apôtre Paul, quand il fait des reproches à l'église de Galates, c'est parce qu'il manquait ce type d'amour dans cette église. Dans Galates chapitre 5 verset 15, il dit qu'il marchait selon la chair. Ils marchaient selon la chair et ils se mordaient entre eux. C'était dans une église. Dans une église, on peut se mordre. On peut se marcher dessus. Parce qu'il manque cet amour agapé. Il faut le demander continuellement à Dieu. Donne-moi cet amour pour que je puisse aimer mon frère comme tu m'as aimé, comme je m'aime moi-même. Amen. Donne-moi, Seigneur, cet amour. Seul, donc, l'amour agapé nous permet de produire toutes les qualités qui ont été énumérées dans ce texte de 1 Corinthiens 13. Ce matin, compte tenu du temps que nous avons, je vais parler de la première qualité de cet amour, c'est l'amour est patient. Et je ne sais pas si c'est par hasard que Paul a commencé par cela, mais je pense que tous, nous avons besoin d'avoir la patience dans la vie. La patience envers les autres personnes. La patience pour vivre en harmonie, la patience pour pouvoir cheminer ensemble. Nous avons besoin d'avoir cette patience envers nos semblables. Et si nous sommes sincères avec nous-mêmes déjà, nous savons qu'il arrive souvent qu'on perde patience. Il arrive souvent qu'on perde patience et même dans l'église, ça arrive souvent. Il y a des personnes qui peuvent manifester des tendances. Nous n'avons pas les mêmes caractères, mais il y a des personnes qui peuvent manifester des tendances ou des caractéristiques qui nous irritent. Chaque fois que je vois la personne, ça m'irrite. Juste à voir la personne, je pense à tel qu'il peut manifester tel caractère dans sa vie et ça m'irrite. Pourtant, le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Il sait que nous avons des caractères différents, mais il dit, aimez-vous les uns les autres. Même s'il y a des choses qui peuvent produire la frustration, l'amour que Dieu met en nous pour notre frère va nous amener à être patients envers cette personne et attendre que, par la grâce de Dieu, cette personne change. Ça peut prendre du temps. C'est pour ça que la patience elle peut nous amener loin, elle peut nous amener loin dans le temps. Vous savez, je donne deux petits exemples des choses qui existent, qui se sont déjà passées dans cette assemblée ici. On entend, quand on a agapé, on dit, mais pourquoi on a rangé les tables comme ça? Moi, je voulais que ce soit comme ça. Et paf, la personne est enflammée. Il n'y a pas de raison de s'enflammer. Quelqu'un peut avoir une autre idée que la tienne, ce n'est pas une raison de s'enflammer. Il y a quelque temps, j'ai demandé, étant donné qu'il y a des personnes qui arrivent parfois en retard, pour ne pas perturber le bon déroulement du moment de louange et de l'adoration, les gens sont en train de louer et d'adorer le Seigneur, mais ceux qui viennent en retard traversent, viennent jusqu'en avant. On dit, ceux qui viennent les premiers, qu'ils occupent les premiers rangs. Juste une demande gentille comme ça, mais il y a quelqu'un qui était parti et qui a même quitté l'église à cause de ça. Mais Dieu nous demande d'avoir la patience même envers de telles personnes. La Bible nous demande à plusieurs reprises de développer la patience entre nous, dans nos relations. La Bible nous le demande régulièrement. Parce qu'être patient, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, etc. Et qu'on soit donc là à la colère. Savez-vous que Dieu veut nous former à la patience? Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient comme c'est à la patience. Ça nous prend une certaine formation, ça nous prend de vivre des expériences, ça nous prend de vivre des situations où nous développons cette patience. Et le désir de Dieu, c'est de développer en nous la patience. La patience, pour qu'un couple tienne, ça prend la patience. Dieu veut nous former à la patience. Et Dieu nous met à l'épreuve. Et il va se servir de certaines situations pour nous former à la patience, justement. Il va se servir des imperfections qu'il y a chez nos semblables. Il n'y a personne qui est parfait. Dans un couple, il n'y a personne qui est parfait. Encore ce matin, moi, je recevais des remarques de mon épouse. Elle dit, mais tu as fait ça. Je dis, ok, je vais changer. Je vais changer. Dieu se sert de ça pour nous former, pour que nous développions la patience. Il va se servir de ses imperfections, il va se servir des mauvais traitements qu'on nous fait subir pour développer la patience en nous. Ces mauvais traitements, ça peut être au travail, ces mauvais traitements, ça peut être n'importe où vous allez. Vous allez dans un bureau, vous allez pour essayer d'obtenir des renseignements, on vous traite comme moins que rien, etc. Mais c'est pour développer la patience envers ces personnes. Ils ont encore en elles des imperfections. Un bel exemple de notre attitude, c'est lorsque nous sommes sur la route. Lorsque nous sommes sur la route, hein, on aime la patience de celui qui vient derrière nous. Ah, merci Seigneur, cet homme est patient. Mais celui qui est devant nous, là, si on aurait pu le cogner, on le cognerait. C'est parce que c'est cela. Dieu se sert de toutes ces choses pour développer. Même sur la route, nous devons être capables d'être patients. Je sais que des fois, c'est difficile quand on vient, on vous coupe devant. Vous êtes sur le point de sortir des gros mots, mais soyons patients. Soyons patients. Prions pour ces personnes afin que le Seigneur les aide à changer. Mais la Bible nous rappelle aussi que la patience doit être présente dans toutes nos relations. Ça veut dire que nous devons accepter de bon cœur. Nous devons nous accepter de bon cœur. Nous accepter les uns les autres de bon cœur. Je dois être ouvert à aimer mon frère, même si je sais qu'il y a des défauts de telle et telle nature dans sa vie, je dois pouvoir l'aimer, prier pour lui, l'exhorter afin qu'un jour il change. Mais en attendant, il faut que je sois patient vis-à-vis de cette personne. Nous devons être lents à la colère. Amen, amen, amen. Et éviter de vouloir toujours riposter à tout. De vouloir toujours se faire justice soi-même. Dire, ok, il m'a fait ça, j'attendrai mon tour, il saura de quel bois je me chauffe. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. L'amour, nous dit la parole de Dieu, est patient. Des fois, c'est vrai qu'on voudrait bien faire quelque chose parce qu'on dit qu'il le mérite. Mais Dieu nous dit de ne pas nous faire justice, c'est lui qui va nous venger, c'est lui qui va nous venger, ce n'est pas à nous de nous venger. Je voudrais ce matin m'arrêter sur un exemple connu, pour ne pas être trop théorique comme ça, mais aller examiner dans l'exemple de David, dans l'histoire de David avec Saül. Vous connaissez bien l'histoire de David avec Saül, et nous allons voir combien David nous laisse un bel exemple de patience. Patience. Nous lisons un texte dans 1 Samuel, le chapitre 24. Je vais prendre quelques versets à partir du verset 10. 1 Samuel 24, le verset 10. David dit à Saül, Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici, David cherche ton malheur ». Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'Éternel. Je ne porterai pas la main sur lui, il est loin de l'Éternel. » Dis, vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Un morceau de ton manteau que j'ai coupé à un moment donné, il est dans ma main. Ça veut dire que j'avais accès à toi. Hein? Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie? Vraiment? Est-ce que c'est ce que je mérite? L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur la main de... Je ne porterai pas la main sur toi, sur le loin de l'Éternel. Amen. L'histoire, vous connaissez tout ce qu'il y a autour, ce serait long à lire, mais vous connaissez donc David, comment il a commencé à servir le roi Saül. Il l'a servi avec beaucoup de considération et beaucoup de joie. Il l'a servi quand il l'a envoyé se battre, il l'a servi de toutes sortes de manières, mais il le faisait avec un bon cœur. Il aimait le roi Saül, il l'a respecté comme un oint de Dieu. Nous devrions être pareils, la même chose vis-à-vis de ce que nous avons. Quand nous avons affaire à un homme de Dieu, nous devrions aussi le respecter de la même manière que David a respecté l'homme de Dieu. Nous devrions le faire, Saül. Donc Saül, pour des raisons qui lui sont propres, là, voulait tuer David parce qu'il écoutait trop ce qu'on lui racontait au sujet de David. Parce que quand il est revenu du combat, les femmes chantaient, écoute, hein? Il a ses 10 000. Et ça l'a énervé. Ça a commencé par là. Et par la suite, évidemment, il y a des gens de sa cour qui ont commencé à lui raconter des choses. Ah, il t'en veut, il te cherche le malheur. Et c'était faux, c'était complètement fou. Et David n'a pas agi, malheureusement, dans cette situation. Il n'a pas agi avec sagesse envers Saül, n'a pas agi avec sagesse envers David. Saül n'a pas agi avec sagesse. Il préférait écouter ses mauvais conseillers qui lui disaient que David lui cherche le malheur. Mais malgré le sentiment de jalousie qui était quand même, qui naissait dans le cœur de Saül, à cause de tout ce qu'il entendait, David a choisi de s'en tenir à la justice de Dieu. Je compte sur la justice de Dieu, il ne m'appartient pas de me faire justice à moi-même. S'il s'agissait de me faire justice à moi-même, je l'aurais fait. Je l'ai eu quand je fouillais, j'étais dans la caverne, il est venu vers moi, il dormait, etc. Et puis personne n'a même vu, ses soldats n'ont même pas vu, ses gardiens n'ont même pas vu quand je suis allé couper, déchirer le pan de son manteau. Il n'a pas vu. Donc j'aurais pu le tuer, j'aurais pu le tuer. David a choisi de ne pas se venger lui-même. Et la Bible nous le dit, nous le recommande fortement dans le livre des Proverbes. Proverbes 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Amen. Voulez-vous être intelligent? Soyez là à la colère. Amen. Voulez-vous être intelligent? Soyez là à la colère. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Dans le livre des Proverbes 19, le verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. La sagesse, c'est être lent à la colère. Et il faut le demander à Dieu. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Donc l'extrait que nous venons de lire sur l'histoire de David et Saül montre que David avait toutes les raisons du monde pour se défendre. Il était pourchassé comme un malfaiteur par le roi Saül. Quand il apprenait que David est rendu à tel endroit, il dit, oh, on me dit qu'il est à tel endroit. Il prend son armée, on va à la recherche, comme s'il poursuivait une bête sauvage. Et David n'avait rien fait. Saül voulait régler les comptes Saül voulait régler les comptes à David, Mais David, lui, n'a pas voulu se venger, comme je viens de le dire. Mais au contraire, David a été simplement patient envers Saül. D'abord, ce qui nous prouve sa patience, c'est beaucoup d'éléments ici. Vous savez que Samuel, prophète Samuel, avait déjà oint David comme roi. David ne s'est pas précipité pour dire « Non, mais j'ai déjà été un roi, etc. Il faut que je prenne le pouvoir par la force. » Il a été patient, il a préféré attendre le temps de Dieu. Et le temps de Dieu pour chacun de nous est le meilleur. Vous faites des choses avant, vous êtes à côté de la traque. Vous le faites après, vous avez manqué quelque chose. Mais c'est d'attendre le temps de Dieu. Peu importe ce que nous devons endurer. Attendre le temps de Dieu, c'est toujours le meilleur pour nous. Lui, il a attendu le temps de Dieu, il n'a pas voulu accéder au trône par la force. Il avait aussi des hommes autour de lui. Il aurait pu se battre. Il aurait pu aussi associer d'autres personnes autour de lui pour aller s'opposer à Saül, mais il ne l'a pas fait. Lorsqu'il était pourchassé par Saül, il a su maîtriser sa colère. Il a su maîtriser sa colère, il a préféré s'humilier. Il est humilié, il est allé fuir carrément, il est allé se cacher dans une caverne. Troisième chose qui nous montre la patience de David, c'est qu'il a refusé jusqu'à la fin de toucher à la vie de Saül. Il a dit, Seigneur, aide-moi à garder ma confiance en toi, parce que c'est toi qui régleras ce problème. Et tu le feras en ton temps. Merci pour la patience que tu me donnes d'attendre que toi-même, tu agisses. Plus loin dans le texte, dans 2 Samuel, le chapitre 1er, le verset 11, même quand David a appris la mort de Saül, il est mort dans des circonstances où il a été tué, lui et même son fils, Jonathan, qui était l'ami intime, l'autre David, l'autre égal à David, etc., quand les deux sont morts, il aurait pu se réjouir et dire, « Bon débarras, Seigneur, tu as fait justice, et il est parti. » La Bible nous dit, au verset 11, 2 Samuel 1, verset 11, que David, apprenant la mort de Saül et de Jonathan, son fils, ne s'en est pas réjoui. Au contraire, la Bible dit qu'il a déchirer ses vêtements, c'est un signe en Israël, quand tu déchires tes vêtements, c'est un signe de deuil. Il a pris deuil parce qu'il aimait. Il aimait Jonathan et il aimait Saül. Il savait que c'était un oint de Dieu, il a pris deuil parce qu'il les aimait. Je vais vous dire que seul l'amour agapé permet de faire cela. C'est pour ça que c'est ce que nous devons demander à Dieu. Seigneur, donne-moi de cet amour. Donne-moi de cet amour afin que je puisse être patient devant des contrariétés de la vie, devant des mauvais coups que l'on me fait, que je sois patient parce que je sais que tu es ma justice, tu es mon défenseur. Donc, la patience de David, bien-aimé, envers Saül, se manifeste par son refus volontaire. Il y a de la volonté là-dedans. Oui, l'amour de Dieu en nous nous permet de faire des choses, d'éviter des choses, mais il y a la volonté. Notre volonté doit entrer en ligne de compte. Son refus volontaire de toucher à la vie de Saül, même lorsqu'il en avait l'occasion. Parce que David respectait Saül comme un oint de Dieu, et il préférait donc s'attendre à la justice de Dieu, malgré tout ce qu'il a subi comme persécution, comme moment de détresse, mais il a préféré s'attendre à Dieu. Donc, de façon générale maintenant, pour revenir à nous, de façon générale, notre capacité à rester, à être patient, à demeurer patient, notre capacité est toujours mise à l'épreuve lorsque on considère que nos droits sont bafoués. Dès lors qu'on considère que mes droits, non, il n'avait pas le droit de faire ça. Alors, tu comprends comment ma frustration monte, etc. Mais demande à Dieu encore la patience. Donne-moi la patience. La Bible dit que la patience est un fruit de l'esprit. Demande à Dieu la patience. Même quand tes droits sont bafoués, je crois que dans un chant, nous avons chanté ici qu'il est notre défenseur, qu'il est notre pourvoyeur, qu'il est tout cela. Seigneur va le faire quand nous nous adressons à lui avec un cœur sincère. Quand nos droits sont bafoués, la patience diminue. La patience va en diminuer à l'ennemi, s'en sert évidemment pour nous faire monter l'adrénaline. Donc, on n'est pas capable, quand les droits sont bafoués, on n'est pas capable de garder silence. Quand nos droits sont bafoués, on veut tout de suite, régler les comptes, tout de suite. C'est maintenant, je ne veux pas attendre plus longtemps. Et la Bible nous rappelle combien Dieu a été patient envers nous. Vous imaginez que s'il n'avait pas été patient. Il y a des choses dont nous sommes conscients. Moi, je suis conscient, le temps qu'on a commencé à me parler du Seigneur dans ma vie, comment je réagissais. Là. Je voulais même humilier les serviteurs de Dieu qui venaient chez nous pour me parler de choses comme ça, pour montrer que je n'ai pas le goût de vous entendre. Là, je disais, amenez-moi ma bière. Parce que je savais que, bon, il n'était pas à l'aise avec ça, mais je dis, amenez-moi ma bière. Je bois pour leur dire, vous n'êtes pas les bienvenus ici, donc faites attention pour ne pas revenir ici. C'était comme ça. Mais Dieu a été patient. Il aurait pu nous rejeter. Il aurait pu dire, OK, je vous ai offert le salut gratuitement par Jésus-Christ, vous n'en voulez pas, tant pis pour vous. Mais il continue encore à tendre la main. Il continue encore à nous parler. Le Saint-Esprit continue encore à nous appeler, à changer, à reconnaître notre état de pécheur et à mettre notre vie en ordre. Dieu a été tellement patient envers nous et il est encore. Et il est encore patient envers les pécheurs. Parce que la Bible dit qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu est patient. C'est un exemple qu'il nous donne, et donc que nous puissions être patients. Vous allez dire, oui, mais Dieu est Dieu, et nous sommes des hommes. Mais Jésus aussi était un homme quand il est venu ici sur terre. Il était dans la chair comme nous, mais il a été patient. Même dans toutes ses souffrances, il a été patient. Quand on le conduisait, la Bible dit dans Ésaïe 53, qu'on le conduisait comme on mène des brebis à la boucherie. Il était silencieux, il était patient, parce qu'il savait qu'il y a quelque chose qui doit s'accomplir. J'attends le temps de Dieu, que ça s'accomplisse. Ma mission aura été faite, et le salut nous est parvenu comme ça, parce que Jésus-Christ lui-même a été patient. Sans la patience, on ne peut pas changer de façon significative, on ne peut pas changer de manière durable nos relations. Prions pour que le Seigneur nous donne la patience. À l'Église, nos relations vont aller de mieux en mieux si nous avons la patience dans nos relations. Dans le couple, les choses iront de mieux en mieux s'il y a la patience, mais si tout le monde élève la voix, l'autre élève la voix, on ne règle pas le problème. Nous devons développer cette patience à nous si nous voulons arriver à un but. Dans nos familles, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que nous avons le lien de sang que tout roule dans les familles. Non, il y a des combats dans les familles. Il y a des gens qui font des années sans se parler. Il y a des gens qui font des années sans se voir. Mais Dieu veut que nous puissions nous parler parce que nous sommes les enfants d'une même famille. Donc essayons d'imaginer, comme chrétiens, l'impact que nous aurions si nous étions patients déjà les uns envers les autres. Déjà dans l'Église, si nous étions patients les uns envers les autres, imaginez l'impact que cela peut avoir. Et en partant d'ici, nous amenons cette richesse à l'extérieur, nous allons donc pouvoir impacter le monde entier. Donc nous connaîtrions davantage d'harmonie. Nous aurions d'ailleurs plus de puissance parce qu'il y a un prix à payer. Donc j'ai dit tout à l'heure que la patience s'acquiert. Ça s'acquiert. On n'est pas patient. La patience s'acquiert. Et je vous dis, croyez-moi, chers amis, que ce n'est pas juste en demandant à Dieu, par une courte prière, juste rapide comme ça, donc c'est comme on aime faire, hein, la prière micro-ondes où on appuie sur un bouton, Seigneur, donne-moi la patience, et vous croyez que vous allez la voir tout de suite. Non, comme elle disait, ça prend la persévérance. Il faut attendre que Dieu agisse. C'est pas tout de suite quand tu demandes que tu vas la voir. Il y a des choses que tu peux avoir tout de suite, mais Dieu veut que nous soyons patients, même dans l'attente des réponses qui doivent venir de lui. Amen. Donc on acquiert la patience davantage avec le temps. Je l'ai dit au début, par l'apprentissage. C'est à travers les circonstances par lesquelles nous passons, c'est à travers les difficultés que nous connaissons dans la vie que nous arrivons à développer cette patience et qu'on peut donc grandir de ce côté-là. Comme je le dis souvent, les chrétiens oublient que quand Dieu dit qu'il nous a aimés, son but premier à lui n'a pas été de nous donner une vie exempte de tracas. C'est parce que Dieu a dit que venez à moi, et c'est l'erreur que souvent on commet. Donne ta vie au Seigneur et puis tous ces problèmes vont disparaître. Non, ce n'est pas ça. Non, Dieu n'a pas dit que quand nous venons à lui, qu'il nous libère, nous sommes exemptés de tracasseries ou de problèmes dans la vie. Mais ce que Dieu veut, son but est de former notre caractère à travers des difficultés, etc. Et parmi les choses qu'il veut développer, c'est cette patience. La Bible nous dit d'ailleurs dans Ésaïe 30, le verset 15, que c'est dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance. Faisons confiance à Dieu. Il connaît nos cœurs, on l'a dit ce matin, il connaît les désirs de notre cœur et il va nous les donner si ce sont des désirs saints, si ce sont des désirs qui nous permettent de le glorifier, si ce sont des désirs qui nous permettent de grandir dans le calme et la confiance que sera votre force. Nous pourrons aller de l'avant si nous sommes calmes devant le Seigneur et nous lui demandons ce que notre cœur désire. La Bible nous dit qu'il nous le donnera. Amen. Donc, si notre vie chrétienne n'est pas exempte de tracas, il arrive que Dieu permette des temps difficiles dans la vie de ses enfants. Il arrive que Dieu permette des temps difficiles dans les relations des uns avec les autres, parce qu'il veut qu'à travers ces temps difficiles, que nous puissions être ses témoins, que nous puissions montrer que nous connaissons le Seigneur, que nous puissions connaître que nous avons la crainte de Dieu dans notre vie, et en le manifestant à travers la patience que nous montrons vis-à-vis de ceux qui nous entourent, ben là nous devenons des témoins efficaces de Jésus-Christ. Et Jésus a besoin d'avoir des gens patients dans cette société. Hein? Il y a tellement de choses qui vont vite, on veut tout avoir tout de suite, on veut que tout soit réglé tout de suite, qu'on a perdu patience dans beaucoup de choses. Mais Dieu veut que ses témoins dans ce monde, nous soyons patients. Patients envers ceux que nous côtoyons, patients envers ceux que nous exhortons, patients vis-à-vis de ceux pour qui nous prions pour qu'ils changent. Si tu as commencé à prier pour quelqu'un, continue à prier. Continue à prier jusqu'à ce que tu obtiennes. Elle a pris 17 ans pour prier pour sa famille, pour sa grande sœur, et elle a vu le résultat après 17 ans. Dieu est fidèle. Donc gardons toujours à l'esprit, et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, gardons toujours à l'esprit ce que Paul dit dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors toutes choses, ça inclut quoi? Ça inclut aussi notre patience qui est mise à l'épreuve. Ça inclut tout cela. Alors nous pouvons donc nous attendre à lui. Je voudrais terminer ce matin en rappelant que Paul souligne l'importance de la patience sans laquelle le véritable amour aurait du mal à se manifester. Ah oui, tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère si tu n'es pas patient envers lui. Donc sans cet amour agapé, la patience, sans la patience, cet amour agapé n'est pas réel, n'est pas concret, on ne peut pas le voir. Tu vas me dire que tu es patient, tu m'aimes alors que tu n'es pas patient envers moi? Non. Donc il faut que la patience soit là, et c'est pour ça que je pense que Paul a commencé par cette première qualité, elle est importante, et Paul en parle d'ailleurs dans plusieurs autres de ses épîtres, parce qu'il trouve que c'est vraiment important. Donc sans cette patience, le véritable amour ne peut pas se manifester. Sans cette patience, les autres qualités que nous avons énumérées de l'amour agapé seront affaiblies. Je l'ai dit tout à l'heure, même dans une relation de couple, les autres types d'amour que nous devons avoir dans le couple vont être affaiblis si nous ne sommes pas patients, nous ne manifestons pas la patience envers les autres. Donc Paul revient beaucoup sur la notion de patience dans plusieurs de ses épîtres. Je vais les lire, je vais terminer avec ça. Colossiens 1, verset 11, il dit, il prie, c'est une prière qu'il élève en faveur des Colossiens, il dit que Dieu les fortifie, en sorte qu'ils soient toujours et avec joie, persévérant et patient. Même quand la patience te coûte quelque chose, mais il faut persévérer dans cette patience, mais il faut le faire aussi avec joie. Colossiens 3, verset 12, il dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion. » Dans la version Darby, on dit, comme on aime le dire ici, « Revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Regardez, toutes ces choses nous sont donnés par Dieu. Ce sont des dons de Dieu. Ce sont les fruits. C'est le fruit de l'esprit en nous. On peut le demander à Dieu. La patience, ça ne s'acquiert pas comme ça parce que j'ai décidé de l'acquérir. Dieu demande à Dieu de te donner la patience vis-à-vis d'un frère. Dieu va le faire à travers les différents événements que tu vas vivre. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 14 nous dit, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Envers tous. Je voulais continuer avec cette partie, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, mais ce sera l'objet d'un autre message une autre fois. Avertis ceux qui sont dans le désordre, tu l'avertis, ça ne veut pas dire que ça va changer tout de suite. Mais jusqu'à quand tu vas l'avertir? Jusqu'à quand tu vas être patient? Est-ce que la patience est illimitée? Non. Un jour, la patience a un terme. Même la patience de Dieu a eu un terme à un moment donné. À l'époque de Noé, etc., vous savez ce qui s'est passé. Il a été patient, il a averti. Noé a parlé de la part de Dieu à tous ses contemporains, mais à un moment donné, la patience prend fin. Mais la patience, c'est quelque chose qui doit quand même prendre du temps. Dieu a pris des années, Dieu a pris des générations pour qu'il puisse finalement donc, mettre fin à sa patience. Frères et sœurs, ce que je voulais que vous reteniez ce matin, c'est que même dans le monde, on reconnaît les bienfaits de la patience. Ah oui, même dans le monde, il y a un proverbe chinois, et j'ai pris celui-là parce que, ben là, il ne croit pas en Dieu, le Dieu d'Israël, notre Dieu à nous, il ne croit pas. Et donc, un proverbe chinois dit ceci, dit un moment de patience peut préserver de grands malheurs. C'est tellement vrai. Tu perds patience, tu te laisses aller à la colère, ça peut t'amener au meurtre. Ça peut t'amener au meurtre. Ils disent, un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Mais un moment d'impatience peut détruire toute une vie. Toute une vie. Mais un moment de patience peut te protéger de la prison. Un moment de patience peut te protéger d'un coup de fusil. Hein? D'un coup de fusil. J'ai déjà vécu, je ne connaissais pas encore le Seigneur, on venait de faire connaissance avec Donna. On est en train de rouler un vendredi soir, on allait dans une boîte de nuit, etc. Alors, je ne connaissais vraiment pas le Seigneur. Et comme je disais au sujet des gens qui sont sur la route, et puis il y a quelqu'un, soit, je ne me rappelle plus s'il voulait me dépasser ou il me klaxonnait, ou la nuit, c'était la nuit, il klaxonnait ou il faisait je ne sais pas quoi. Et puis moi, je lui ai répondu, je ne sais même plus ce que j'ai fait. En tout cas, j'ai dû faire quelque chose qui a énervé la personne. La personne est venue vers moi, il m'a coupé cette fois-ci devant. Ou bien il me donnait beaucoup de... le feu, oui. Et ça m'éblouissait, et puis Alors, il est venu vers moi, il s'est arrêté, il est venu, il a voulu casser la voiture. Il dit, monsieur, c'est à côté de moi, c'était quelque chose là. Il a cogné, il voulait vraiment casser mon auto là. Et ce que j'ai fait de mieux, c'est, je suis sorti, j'ai fui. J'ai laissé l'auto là-bas, elle est restée dedans. J'ai fui. Parce que j'ai risqué ma vie à cause de mon impatience. C'est tellement vrai, c'est proverbe chinois. Un moment de patience peut te préserver de grands malheurs. Si ce gars avait mis la main sur moi, je ne sais pas ce que je serais devenu. Je ne sais pas. Mais l'impatience, j'ai failli perdre mon auto. Je vous dis, c'était une auto neuve là, et puis cogné dessus. Heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts. Quand il m'a vu partir, ben, il s'est calmé, il est parti. Donc demandons à Dieu, bien en terminant, demandons à Dieu de nous donner sans cesse la patience. L'amour pour ceux qui nous irritent, qui nous côtoient. Les gens peuvent nous irriter, les gens peuvent nous faire du mal. Que Dieu nous donne l'amour pour ces personnes, même quand on est en désaccord avec certaines personnes, que nous soyons encore et encore et encore patient envers ces personnes. Le Seigneur va nous aider, il va le faire parce qu'il veut que nous puissions grandir dans l'amour les uns vis-à-vis des autres. Amen. Nous allons prier le Seigneur.